BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Oui, je sais, ce n'est pas le plateau habituel. Regardez le plateau qu'on a, magnifique. Pourquoi ? Parce que c'est une émission spéciale, très spéciale même. Allez, on y va. Musique. Vous entendez ? On lance la première émission de la série des Battles de l'argent. Une émission très spéciale puisque vous allez assister à un combat de géants, de spécialistes sur des sujets qui concernent votre argent. Un combat sans pitié avec une seule règle du jeu. Tous les coups seront permis et ce n'est pas tout. L'émission est enregistrée en public. Et le public votera à la fin de chaque partie pour déclarer qui sera le vainqueur de chaque battle. Ça va être fou. Je vous annonce quand même que moi, je suis venu pour m'amuser et passer un très bon moment. Ça sera digne des combats mythiques de Mohamed Ali, de Mike Tyson, car pour ces battles, nous n'avons que des poids lourds de l'économie, des placements et de l'argent. C'est parti! Bah oui, pour une émission spéciale, pour un combat comme celui qu'on va vivre aujourd'hui, un combat à mort. Il faut des invités très spéciaux dans le premier coin du ring, celle qui sur l'économie et les marchés de taux a un score impressionnant. 32 victoires, dont 18 par KO, 3 matchs nuls, aucune défaite. Valentine Hennouz, elle défendra les placements de taux d'intérêt contre la bourse. On l'applaudit. À côté d'elle, un combattant illuminé du MMA, du multi-market asset qui défendra. Non, c'est pas Amaury, c'est à côté le nouveau Viagra des placements, le Bitcoin. Cyril Sebag, vous allez essayer de vous battre face à la relique barbare de l'or. Est-ce que vous êtes prêt, Cyril ?
Plus que prêt.
Plus que prêt. En face de Valentine, toujours dans la catégorie poids lourd, le boucher de Versailles, the master of disaster du royaume de France, l'éclair du cloud, j'ai nommé Louis de Montalembert, gérant, patron, régent de Pléiade AM. Il défendra les actions, on l'applaudit bien fort. Alors,
magnifique, franchement.
Et enfin, lui on peut l'applaudir avant, parce qu'il est tellement bon. Last but not least, écoutez bien, il a battu dans sa jeunesse Marcel Cerdan, George Foreman. Plus récemment, il a massacré Tony Yoka. 72 victoires, 72 KO, 0 défaite. Le monument de la lutte économique, l'unique, l'immense. Faites un baroud d'honneur pour Jean-Marc Daniel qui défendra la médaille de l'or.
Je note que vous avez eu la courtoisie de ne pas parler de poids lourd quand vous avez ordonné mon cas.
Oui, non, mais en fait, je vais vous dire une chose, tout le monde le pensait tellement que je n'ai rien dit.
Oui, il n'y a pas que des auditeurs, il y a des téléspectateurs. Et effectivement, je pense que c'était une marque de courtoisie.
Alors, vous allez donc assister en première partie à la bataille or contre Bitcoin, en deuxième partie à la battle bourse comme placement taux. Et comme il n'y a absolument aucune règle, tout combattant, même un combattant qui ne fait pas partie de la battle, pourra intervenir sur le sujet qui ne le concerne pas. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le grand n'importe quoi. C'est parti. Allez, on démarre tout de suite avec l'or contre le Bitcoin. Et j'ai demandé à un de nos arbitres de monter sur le ring. Cet arbitre, vous le connaissez ou pas? Et pourtant, vous devriez le connaître. C'est Amaury de Tongdeck. Amaury, vous allez nous planter le décor. Vous allez nous donner quelques informations de base, quelques chiffres sur l'or, sur le Bitcoin. Les deux sont chauds comme la braise dans leur coin. Ils sont en train de se faire soigner avant de démarrer. À vous.
Là, c'est très très chaud. On va planter le décor rapidement. On va revenir aux origines. Donc l'or, on peut le trouver sur Terre depuis 3,8 milliards d'années. On l'utilise depuis environ 7000 ans. Ça, c'est pour faire plaisir à Jean-Marc, le petit côté historique. Après, le Bitcoin...
Vous rappelez son âge en même temps, parce que 7000 ans, c'est presque, c'est presque sa date de naissance.
Non, mais Jean-Marc ne périmera jamais. Voilà.
Il prend de la valeur avec le temps.
Comme l'or. On verra ça tout à l'heure. Les premiers Bitcoins, eux, ils ont été émis en janvier 2009, donc ils ont 15 ans d'existence. Donc ça fait une petite différence d'âge. Sur les performances maintenant, sur 10 ans, l'or, plus 80%. Sur un an, plus 14%. Le Bitcoin, sur 10 ans, ça ne va pas faire plaisir à Jean-Marc, mais plus 13 000%. Sur un an...
13 000%, Jean-Marc.
13 000%.
Ouais. Là, c'est un coup bas, non?
Non, je vais répondre à
ça. Ah, d'accord.
Et le Bitcoin sur un an, plus 110%. Maintenant, je vais parler rapidement des ETF. Donc, je rappelle ce qu'est un ETF. Donc, c'est un, ça peut être appelé
tracker aussi. Oui, parce que comment, ma question, c'est comment on peut investir sur Bitcoin déjà?
Alors, à la limite, je le dis à la fin.
Ah ouais, d'accord. Comme ça. C'est vous qui faites l'émission, en fait. Ok, allez-y alors.
Non, je rappelle juste qu'il y a un ETF parce qu'il y en a à la fois sur l'or et sur le Bitcoin. Donc, c'est un fonds indiciel qui cherche à suivre le plus fidèlement possible l'évolution d'un indice boursier à la hausse ou à la baisse. C'est émis par des fonds d'investissement qui sont agréés. Quel effet ça a ?
Si vous trouvez qu'il est trop long ou qu'il n'est pas bon, vous sifflez.
Bah, j'essaie de faire plus rapide possible. Quel effet ça a ? Ça crédibilise et institutionnalise les sous-jacents en question qu'il y a derrière et ça élargit considérablement le spectre des investisseurs potentiels. Les premiers ETF gold, donc or, sont apparus aux États-Unis il y a près de 20 ans, en novembre 2004. La capitalisation actuelle, c'est 100 milliards de dollars. Les premiers ETF Bitcoin spot sont apparus aux États-Unis en janvier 2024, donc il y a 4 mois, capitalisation 50 milliards de dollars. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce que les ETF or ont mis 15 ans pour atteindre la capitalisation des 50
mais
milliards de
normal,
dollars.
Mais c'est normal, on peut acheter de l'or différemment.
Oui, mais ça a mis 15 ans, alors que cette capitalisation-là, pour les ETF Bitcoin Spot, ils ont mis 4 mois pour l'atteindre.
Parce que non, mais là, vous prenez parti.
Non,
Jean-Marc,
c'est que
vous
des
pouvez
chiffres.
Protester.
C'est que des chiffres.
C'est censé être un
chiffres.
Arbitre, et vous avez un arbitre sur un combat.
Non,
c'est
que des chiffres.
Et avant même le combat... Essaye de vous porter des coups bas.
Et là, c'est assez souvent le cas dans les rencontres sportives. L'arbitre joue en faveur de quelqu'un.
Mais c'est
on l'a vu.
Vous pouvez faire ouh.
On l'a vu à la Coupe du Monde de rugby.
Non, mais c'est honteux ce que vous faites.
Là, c'est que.
Non, mais vous prenez parti. Le combat n'a pas commencé.
C'est que des chiffres. Après, pour le statut rapidement, pour la SEC, donc le gendarme boursier américain, or et Bitcoin sont considérés tous les deux comme des matières premières. Les banques centrales, pour l'instant, achètent de l'or. Mais pas officiellement, en tout cas, du Bitcoin, à part le Salvador, pays d'Amérique centrale, dans lequel le Bitcoin est une monnaie légale en 2021, pays dans lequel Jean-Marc...
Belle référence, voilà. Le Salvador.
Sur la quantité
disponible... C'est où le Salvador ? Quelle est la capitale du Salvador ?
Amérique centrale.
C'est les pays voisins, le Salvador ?
Les pays... Oh, ben là, j'avoue que...
Allez, on y va. Vous ne laissez pas déstabiliser.
Pour ce qui est des quantités disponibles, donc le Bitcoin, quantité limitée à 21 millions.
Le dernier non mais vous ferez pas toute l'émission là.
Dernier
là,
Bitcoin,
il faut y aller, là.
Dernier Bitcoin serait émis en 2140 et après j'ai fini. Pour l'or, on a des estimations, mais c'est moins évident. Ce qu'on peut dire, c'est que la production plafonne depuis plusieurs années en raison de l'absence de découvertes majeures depuis plus d'une décennie.
Ok. Où est-ce qu'on peut acheter de l'or?
Donc, c'est des quantités.
Où est-ce qu'on peut acheter des bitcoins rapidement?
Bitcoin, soit on en achète directement via des plateformes d'échange, etc., qu'on peut posséder nous-mêmes via des clés physiques, notamment des clés Ledger, ou alors on peut les acheter maintenant via les ETF. Pour ce qui est de l'or, soit on achète via des ETF, soit on en achète physiquement, soit on peut acheter des sociétés minières cotées en bourse.
On lui a expliqué juste avant parce qu'il savait pas en fait.
Oui, je savais. Parce que
et je lui ai dit, il faudra que tu lui dises où est-ce qu'on peut acheter. Mais il a dit, mais je sais pas. On lui a dit, c'est des sociétés minières.
J'ai dit, c'est des sociétés minières.
En tout cas, il répète très bien.
Ça prouve que l'arbitre est parti.
Est-ce qu'on peut avoir la cloche du début de round? C'est parti. Cyril, est-ce que vous voulez démarrer? Vous montez sur le ring, allez-y.
Avec grand plaisir.
Le Bitcoin, pourquoi c'est ce que vous défendez? Pourquoi vous pensez qu'à côté de ça, l'or, c'est vraiment bidon?
Écoutez, je vais déjà parler des caractéristiques entre guillemets techniques. C'est une innovation technologique sans précédent. C'est à l'origine de la blockchain. C'est une monnaie numérique décentralisée, sans tiers de confiance et avec une quantité finie. Et donc l'intérêt, il est simple. Les registres de transactions sont publics et elle a des caractéristiques qu'on peut retrouver dans la monnaie. En particulier, le fait que ce soit un peu une réserve de valeur. Puisqu'il y a une quantité finie, la quantité finie est régie par le code, par un code informatique. Donc il n'y a pas de sujet de rareté ou pas rareté, il est rare par essence, je dirais par définition. Ensuite, le point qui est intéressant, on a une liquidité croissante. Amaury l'a dit, c'est un adolescent par rapport à l'or. On a vraiment 15 ans contre 6000 ans, en tout cas, sur l'utilisation. Donc un adolescent contre un vieillard, ou plutôt même une antiquité.
Attends, qu'est-ce que vous dites là? Alors, vous avez entendu?
Oui.
Un adolescent contre un vieillard.
Oui.
Non mais vous avez visé qui là?
Oui. Je n'ai visé personne.
Non, mais je le prends moi aussi personnellement, c'est... je suis de la même génération que Jean-Marc.
Mais moi, c'est pas beau.
Ça plutôt non, j'ai dit que tous les coups étaient permis, mais là, c'est un coup bas. Attention, l'arbitre, là.
Mais non, c'est pas un coup bas, c'est un compliment.
Ouais, c'est un coup bas. Allez, Cyril.
On a une liquidité qui est croissante. On a entre 20 et 50 milliards de dollars qui sont échangés par jour. On a une transférabilité instantanée sur le Bitcoin. On peut dire que c'est l'évolution moderne de la monnaie dans une économie globalisée et numérique. Ça, c'est pour les caractéristiques globales.
D'accord, maintenant, on peut toujours les discuter, mais je laisserai Jean-Marc les discuter.
Si maintenant, je m'intéresse aux performances, donc en tant qu'actif financier. Si on regarde depuis le début de l'année, on l'a dit, on est à peu près à plus 35% sur le Bitcoin, on est environ à plus 15% sur l'or. Je vais prendre maintenant un peu de recul. Sur les 5 dernières années, le Bitcoin est à plus 1000%. L'or est à plus 80%. Maintenant, je prends encore plus de recul. Sur 10 ans, et j'inclus 2013, on est à 300 000% pour le Bitcoin, soit 125% annualisé. Et on est environ à 18% sur l'or, soit environ 2%. Ça, c'est uniquement factuel, on parle des performances. Maintenant, le point qui est très intéressant sur le Bitcoin, c'est son côté diversifiant. Si on s'intéresse à la corrélation du Bitcoin par rapport aux autres actifs, la corrélation typiquement avec l'or ou
alors,
avec l'argent...
Expliquez la corrélation pour les gens peut-être du public qui ne connaissent pas ou les gens qui nous écoutent et nous regardent, c'est quoi?
La corrélation, c'est le fait de bouger en même temps, d'avoir un mouvement qui est complètement en ligne avec un autre sous-jacent. Donc le fait d'être décorrélé, en général, c'est ce qui est recherché dans un portefeuille. On cherche, en général, quand on construit un portefeuille, à avoir plein d'actifs décorrélés, puisque leurs mouvements vont être asynchrones. Si on s'intéresse au Bitcoin, la corrélation avec les actifs traditionnels, donc l'or ou l'argent, est négative, et elle est relativement faible avec les actions, typiquement le S&P, les actions américaines. Alors, est-ce que ça implique? C'est que si on construit un portefeuille avec du Bitcoin, et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une analyse qui a été faite par Coinbase, la plateforme d'échange sur les crypto-monnaies, ils ont analysé un portefeuille 60-40, vous savez les portefeuilles classiques, 60 obligations, 40 actions, avec 60% d'obligations américaines et 40% sur le MSCI World, et ils ont injecté 5% de Bitcoin, pour voir un peu ce que ça donnait. Et ils ont fait ça sur 5 ans, entre avril 2019 et mars 2024. Sur ce portefeuille, qui fait environ plus 35% et qui a une volatilité de 10%, l'ajout de 5% de Bitcoin fait passer la performance de 35% à 65% et fait passer la volatilité, c'est ça le plus intéressant, de 10,5% à 11,5%.
La volatilité, c'est l'indice de nervosité.
Exactement.
Cyril, je vous arrête deux secondes, je laisse quand même la parole à Jean-Marc déjà à cette première étape. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Vous avez vu tout ce qu'il a donné comme avantage?
Oui, alors je vais répondre avec trois remarques. La première remarque, d'abord sur le plan purement du vocabulaire, ce n'est pas une monnaie. Une monnaie, c'est quelque chose qu'on peut utiliser...
Il a dit un actif financier.
Non, il a parlé de monnaie. Et donc, une monnaie, c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans un magasin. Je rappelle, je l'avais d'ailleurs utilisé dans une émission précédente, Amaury peut s'en souvenir. J'avais apporté le Code monétaire et financier, qui est un livre rouge. Petit livre rouge, mais même un gros livre rouge.
On aime les petits livres rouges, vous aimez.
Et ouais. Absolument, et dans le Code monétaire et financier, le premier article, c'est que la monnaie en France, c'est l'euro. Quand vous allez dans un magasin, vous payez en euros et pas en bitcoin. Et si vous voulez payer en bitcoin, normalement, le code est clair, c'est illégal. Après, la deuxième remarque, je vais faire deux citations.
Allez-y, parce que moi, j'aime vos citations.
Alors, en vérité, on ne voit pas qu'il puisse y avoir de critères, d'étalons autres que l'or. Et oui, l'or qui ne change pas de nature, qui se met indifféremment en barre, en lingots ou en pièces, qui n'a pas de nationalité, qui est tenu éternellement et universellement comme la valeur inaltérable par excellence.
C'est qui ça? C'est les ancêtres de Louis de Montalembert au moment de Marie-Antoinette.
C'est le général de Gaulle. D'habitude, vous me comparez au général de Gaulle.
Ouais.
Je m'en bats pourquoi.
Non, parce que là,
le général de Gaulle en 1965. Évidemment, il ne pouvait pas parler du Bitcoin parce que le Bitcoin n'existait pas. La deuxième citation, c'est « Le Bitcoin est une pure bulle, un actif sans valeur intrinsèque. Son prix tombera à zéro dès que la confiance disparaîtra. »
Ça, c'est Jean-Marc Daniel, ça.
Ça, c'est Jean Tirole, prix Nobel d'économie. Et il n'est pas le seul à dire ça. Quand on regarde la communauté des économistes, la plupart disent que, effectivement.
Oui, mais on dirait OK Boomer. C'est ça qu'on va dire aux économistes. On va dire, vous êtes en fait...
Oui,
c'est
pas une question d'âge, c'est une question de bon sens. Et le bon sens, on peut l'avoir même quand on est adolescent.
Il vous dit, c'est rare. Il vous dit, on en produit peu. Il vous dit, c'est transparent. Il vous dit, il y a un code. Ça caractérise un actif, ça, non? Financier. Non, peut-être pas une monnaie, mais un actif mais financier.
Un actif, ça suppose qu'il y ait quelque chose derrière, qu'il y ait un sous-jacent derrière. Donc là, par exemple, en ce moment, le cours du cacao, dont nous avions parlé aussi dans une émission, est en train de s'effondrer.
27% de baisse.
En deux jours.
Bon, en deux jours. Je suis ça de très près parce que la barre de chocolat a flambé, j'en fais plus.
Voilà, exactement. Et donc, le cours du cacao s'est effondré. À la limite, les gens qui ont du cacao potentiellement, si à la fin des fins, ils n'arrivent pas à liquider leur stock, ils auront quelque chose. Les gens qui ont du Bitcoin, quand la confiance aura disparu, ils n'auront plus à rien. Les gens qui ont de l'or, quand la confiance en l'or disparaîtra, si tant est qu'elle disparaisse, ils auront encore de ce métal, et de ce métal...
Mais il vous dit que ça fait des années que l'or fait rien.
Comment ça fait des années que l'or fait rien?
Ça fait 2%, 3%, c'est ça qu'ils vous disent, c'est pas de la performance.
Il faut prendre un peu de longtemps, évidemment, par rapport au Bitcoin, il a une histoire beaucoup plus longue. Moi, j'ai regardé la pièce de 20 francs, qui est le Napoléon qui sert de référence.
Bien sûr.
Et
qu'on utilisait dans notre jeunesse.
Qu'on utilisait dans ma jeunesse, pas la vôtre, mais la mienne. Donc la pièce de 20 francs, un ouvrier en 1913 gagnait 50 francs. C'est-à-dire 2,5 pièces de 20 francs. Et quand vous regardez ce que valent effectivement maintenant les pièces de 20 francs en question rapportées à ce que gagne un ouvrier, vous apercevez que c'est exactement la même somme. C'est-à-dire que le prix de l'or est assez largement calé sur l'évolution de l'économie, non pas l'économie sous forme de prix, mais les...
Mais 13 000%, il vous dit, vous, il a fait 13 000%, oui, et vous avez fait 80%.
On était à 64 000, on est à 59 000, il y a un an ou deux ans, on était à 29 000, ouais. Et d'après Jean Tirole, dans deux ou trois ans, on sera à zéro. Alors que l'or, vous aurez toujours quelqu'un pour acheter.
Cyril.
Alors moi, c'est simple, j'ai aussi une citation.
Là, il vous a mis quand même un... Franchement, c'est pas un chaos. Mais vous avez un genou à terre, là.
Ouais, non, pas vraiment. En fait, donc moi, j'ai déjà une citation aussi. En vérité, l'étalon or est déjà une relique barbare. Est-ce que vous savez de qui est cette citation?
Oui, c'est Keynes qui a dit.
C'est Keynes, oui. Un certain économiste relativement connu. Après, oui, si je reviens...
Direct du droit, mais alors là, en plein dans le nez de Jean-Marc, on ne peut pas le louper. Hein.
Les références...
En plein dans le nez de Jean-Marc.
Lénine a dit aussi qu'on utilisait un jour l'or pour servir d'urinoir aux prolétaires.
Wow.
Ce sont des références que je considère comme étant nulles et non avenues.
Oh là là, ça fait mal, là!
Là, pour le coup, l'urinoir, là, pour le coup, c'est
ouais,
un c'est
dans
coup.
Votre sens. Voilà, ouais, c'est dans il vous a sens. Donné une arme.
Non, mais c'est
et puis l'urinoir, ça nous parle.
Le deuxième... Qui on est, dans quel camp on est?
Le deuxième point concerne les prix Nobel d'économie. Parce que moi, j'ai le souvenir de deux prix Nobel d'économie qui ont contribué à un fonds qui, en 1998, s'est écrasé.
Oh, c'est méchant.
Le fonds LTCM, où on avait Merton et Scholes, qui sont deux prix Nobel d'économie. Donc, en général, prix Nobel d'économie et investissement financier ne font pas toujours bon ménage.
Oh là là, non, Jean-Marc, il est pas mal.
Oui, il est pas mal, sauf que c'est toujours les deux mêmes que l'on cite. Ouais. Il y a eu 100 ans de prix Nobel d'économie, on cite toujours ces deux-là qui, effectivement, se sont trompés. Mais c'est pas un échantillon représentatif. L'économie, c'est aussi de la statistique.
Ça me rappelle un peu Valérie Ayer qui, face à Jordan Bardella, cite à nouveau Jean-Marie Le Pen.
Parce que je vais prendre un autre exemple historique, là aussi, très intéressant. Il y a 50 ans, le ministre de l'économie et des finances, qui allait se faire élire comme président de la République, avait lancé un emprunt qui était indexé sur l'or, ouais. Parce qu'il avait expliqué que comme ça coûterait rien à l'État. Comme l'or allait s'effondrer, puisque l'or avait été sorti du système monétaire international en 71-73, l'or allait disparaître et l'indexer sur l'or, c'était rassurer l'épargnant tout en garantissant à l'État que ça n'allait rien lui coûter.
Non, mais il vous dit quand même que votre...
Il a ramassé 6 milliards de francs et quand on l'a remboursé en 1988, il a fallu débourser 78 milliards de francs. Ça prouve qu'entre-temps, l'or avait quand même pris de la valeur.
Cyril.
Et qu'il y avait des gens qui s'étaient trompés sur son avenir.
Cyril.
À propos de l'or, pour moi, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est que d'un point de vue ISR, ESG, c'est le pire investissement qu'il y ait. Pourquoi? Parce qu'on peut s'intéresser à l'impact environnemental, à l'impact social ou à l'impact sociétal. Et on le sait aujourd'hui, n'importe quel investisseur, avant de rentrer sur un investissement, se pose cette question de, on va dire, du caractère ISR ou ESG. Alors, ouais. Je peux donner quelques...
Je peux me mêler, là?
Ouais.
Je peux monter sur le ring? L'ESG du Bitcoin utilisé par le Hezbollah.
Je suis surpris que Jean-Marc
le par le Hezbollah et par les trafiquants de drogue. Je suis pas sûr que ce soit énorme.
Et vu la quantité d'électricité qu'il faut pour faire du
j'attendais minage. Justement cette remarque.
Allez-y.
Donc, déjà, peut-être pour donner quelques éléments sur l'impact environnemental de l'or.
Mais c'est de l'électricité, l'or, quand même. Pas l'or, le Bitcoin.
Mais je vais en parler juste
allez-y.
Après. Un point très important, sur les derniers chiffres dont on dispose, on a, sur l'empreinte carbone, 144 mégatonnes d'émissions de CO2 par an pour l'or, contre 61 pour le bitcoin et 1400 pour le système bancaire. La consommation d'eau, il faut savoir que pour exploiter une mine d'or, on a à peu près la consommation d'une année de 80 000 Français, donc 30 000 foyers. Les déchets. Donc c'est une industrie qui rejette énormément de déchets. On a des nappes phréatiques lorsqu'elles touchent les mines d'or qui sont complètement infectées. on a des problèmes de réhabilitation de sites. Il y a certains endroits, comme au Colorado, où il y a des sites qui sont complètement laissés à l'abandon, avec un impact environnemental terrible. La déforestation, en particulier en Amérique du Sud, où on a de l'or qu'on peut trouver dans les forêts tropicales,
on a
tout
compris,
ce que ça
donc
peut impliquer. Donc ça, on va dire impact environnemental.
D'accord.
L'autre point, l'impact social. Là aussi, une statistique assez effrayante, il se trouve que l'industrie aurifère est la première qui exploite les enfants. Il y a 1 million d'enfants entre 5 et 17 ans qui travaillent.
Je veux partir du plateau là. Non, et puis, là on sort d'enfant, les enfants.
D'enfant.
On avait dit pas les enfants, pas la femme, pas les enfants. On avait dit ça, Cyril. On avait dit pas la femme, pas les enfants.
Je réponds tout de suite. D'abord, Amaury vient de nous dire qu'il n'y a plus de mine d'or, que bientôt ça va s'épuiser, donc tous ces éléments vont disparaître. Et effectivement, l'or qui existe, existe là depuis la haute antiquité, et donc il y a eu les enfants. Mais l'or qui est dans les caves d'un certain nombre de banques centrales, il a été produit à l'époque romaine où c'était des esclaves. Effectivement, le bitcoin, c'était pas la situation qu'a connue le bitcoin. En revanche, la quantité d'électricité qui est consommée pour produire du bitcoin est absolument colossale. Quant aux gens qui auront zéro lorsque le bitcoin sera à zéro,
parce que vous dites,
ça les consolera de se dire que finalement, ils ont utilisé dans leur histoire et dans leur placement moins de sang et de sueur que l'or en termes d'esclaves romains.
Parce que Jean-Marc Daniel, est-ce que vous êtes en train de nous dire ici, dans cette spéciale battle de l'argent, que le bitcoin vaudra à zéro?
Ah, je le pense, oui.
Vous le pensez vraiment?
Son prix tombera à zéro dès que la confiance disparaîtra.
Marc, Cyril.
Oui, c'est une citation. Là, Jean-Marc a relu la citation de Jean Tirole.
Oui, je suis d'accord.
Non, mais je la partage. C'est mon avis.
Il faut savoir que le bitcoin existe depuis 15 ans, mais a connu des cycles extrêmement volatile, avec des périodes très compliquées. On en parlait tout à l'heure en termes d'investissement et de volatilité. C'est vrai que souvent, on pointe du doigt la volatilité du Bitcoin. Oh là là, c'est un actif qui est volatile. Et là-dessus, il y a un biais cognitif. En général, quand on pense volatilité, on pense baisse. Mmh. Et ce qui est intéressant sur le Bitcoin, c'est que c'est une volatilité sur un trend haussier. Donc, ça, c'est un point qui est intéressant, c'est de se dire, oui, c'est volatile, oui, ça peut bouger, mais ça bouge sur une tendance haussière. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le fait qu'on en ait une quantité finie, que tout soit clair, qu'on a une inélasticité de l'offre...
C'est sur le côté
de
tout
l'offre,
soit clair, il vous dit, c'est pas clair.
Une inélasticité de l'offre à la demande.
Oui, allez-y.
Fait qu'on a toutes les caractéristiques. Vous parliez de monnaie, moi j'ai parlé des caractéristiques. On retrouve énormément de caractéristiques de la monnaie.
Juste une question, on finit ça parce que le combat va être bientôt terminé. L'offre et la demande, ça c'est un point intéressant.
Oui, c'est un point intéressant. Justement, c'était le troisième point que je voulais aborder, c'est que sur l'offre et la demande, il y a quand même sur l'or un intervenant très particulier qui sont les banques centrales, qui interviennent en ce moment pour certaines en achat, mais qui interviennent aussi en vente. La semaine dernière, la Banque centrale du Vietnam a vendu effectivement une partie de son stock d'or pour essayer de calmer l'évolution du cours de l'or localement et permettre au secteur de l'orfèvrerie de respirer face à la montée du cours de l'or. Donc, vous avez installé sur ce marché-là des gens qui sont des gens qui ont quand même une certaine assise à la fois historique, économique et juridique, alors que sur le Bitcoin, encore une fois...
Donc, l'offre et la demande, vous dites qu'il n'y a pas d'offre et de la demande
sur le Bitcoin, chez eux. Sur le Bitcoin, il n'y a pas d'offre et de demande. Et comme il n'y a pas d'utilité sociale autre que d'illusion, il y a un moment où... la demande va s'effondrer. Il y a un moment où, quand la panique va prendre, c'est un mécanisme de spéculation traditionnelle.
C'est la tulipe pour vous.
Ah, mais c'est la tulipe, c'est le cacao la semaine dernière.
On les applaudit bien fort parce qu'ils ont été très très bons. Avant de vous demander ce que vous avez pensé, qui a gagné ou qui a perdu, Louis de Montalembert, est-ce que vous avez une remarque à faire? Est-ce que vous avez... Pour vous, qui est-ce qui a été le meilleur là-dedans? Non, pas votre opinion. Qui a été le meilleur? Non, votre opinion, Louis, il faut savoir que tout le monde s'en fout. Donc donnez-nous juste qui, pour vous...
Moi, je crois dans le Bitcoin et dans l'or.
Honteux.
Je suis à côté de Jean-Marc Daniel, je prends pas de risque quand même.
Valentine, qui vous a convaincu?
Moi, je crois dans l'or, je crois dans des sources de revenus où on comprend sur quoi on investit.
Moi, je trouve que Cyril n'a pas été mauvais. Hein. Franchement, il a été très bon. Allez, on passe tout de suite au vote du public pour le Bitcoin.
Quand même.
Pour l'or.
Ah oui, mais c'est l'âge.
Musique. Cyril, moi je vais vous dire une chose. Vous m'avez presque convaincu, alors que franchement, c'était pas du tout gagné. Parce que moi, je suis un peu comme Jean-Marc, je suis un peu de la vieille école. Et j'ai l'impression que ça repose sur rien. Mais vous avez eu des arguments qui m'ont quand même un peu titillé. Un peu titillé, qui m'ont pas déstabilisé, mais qui m'ont un peu titillé. Jean-Marc, à aucun moment, quand vous avez eu ces punchs qui vous sont arrivés direct sur le nez, vous êtes pas dit à un moment, là, je suis en difficulté dans le combat?
Non, je pensais pouvoir être en difficulté quand je me suis mis à défendre les banques centrales. Je me suis dit, à ce moment-là, Marc va intervenir. Non, mais parce qu'il suffit qu'on lui dise banque centrale pour qu'il ait une réaction épidermique. Donc vous c'est dites, le moment où je fragilisais mon dossier.
Donc, vous dites que ça a été une victoire facile pour vous?
Ah non, pas du tout, pas du tout. Et je pense que c'est un combat qu'il faut continuer à mener.
On se retrouve en deuxième partie de l'émission. Cette fois-ci, ça va être dantesque entre Louis de Montalembert, Valentine Hénouze. On va parler de la bourse. Et face à la bourse, on va parler des placements de taux d'intérêt. A tout de suite.
BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Et on se retrouve, et je vais crier de plus en plus fort parce que Louis de Montalembert m'a dit arrête de crier. On se retrouve pour une émission spéciale, très spéciale. L'émission spéciale Battle de l'argent avec Jean-Marc Daniel à ma gauche. On peut l'applaudir. Hein. Louis de Montalembert qui va défendre les taux d'intérêt, les actions, pardon. Cyril Sebin qui a défendu le Bitcoin avec brio face à Jean-Marc Daniel. Jean-Marc Daniel qui a quand même été une légende de la boxe et du combat.
Franchement,
Marcel Cerdan,
voilà, mais on n'en parle pas au passé.
Mais encore aujourd'hui, et Valentine Hénouze qui se chauffe depuis tout à l'heure dans son coin. Elle a une équipe technique qui est absolument incroyable. Ça va être absolument génial. Est-ce qu'on pourrait avoir une musique de combat pour ce combat? Alors, on va commencer d'abord par des questions générales avant de pouvoir lâcher vos coups. Louis, avant de commencer le combat, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on place son argent sur la bourse? Vous allez défendre la bourse, Valentine va défendre les produits taux. Si moi, je suis particulier, comme les gens dans la salle, s'ils veulent investir en bourse, comment ils peuvent investir en bourse?
Alors, c'est extrêmement simple, puisqu'on est sur des marchés liquides. Il faut passer par des comptes en banque ou des comptes d'assurance vie. Il y a le PEA en France qui permet de défiscaliser des investissements en Europe. Sinon, on investit sur un compte titre ou à travers des OPCVM, qu'on appelle des unités de compte en assurance vie. De manière générale, on peut soit sélectionner ses propres titres. Moi, mon conseil, c'est quand même de passer par des professionnels parce que c'est pas si facile. Ou bien, tout à l'heure, Amaury en parlait, des ETF qui permettent de ne pas sélectionner véritablement, si ce n'est de sélectionner des indices. Et c'est extrêmement facile. Je vais passer un ordre à son banquier.
Valentine, qu'est-ce qu'on fait si on... Parce que ça paraît très compliqué. D'ailleurs, vous avez un problème dans votre combat, dans votre ligue. C'est que le nom de la ligue n'est pas clair. C'est-à-dire qu'on parle de la ligue des placements obligataires, on parle des marchés de crédit, on parle des marchés de taux d'intérêt.
Exactement.
Allez-y.
Il faut déjà bien comprendre ce que c'est qu'une obligation. Une obligation, c'est un titre de dette émis par des entreprises, par des États ou par
des institutions financières.
Donc, bien comprendre que le revenu attaché à une obligation, c'est le coupon. Et le coupon, en général, la grande différence avec les actions, c'est que le coupon est connu à l'avance. Donc, on a une plus grande connaissance.
On n'a pas commencé le combat, hein. Pour l'instant, on est dans l'explication. Non, mais parce que là, vous balancez. C'est sournois. D'ailleurs, vous avez souri, vous sentiez que vous étiez en train de ne pas respecter la règle.
J'explique une obligation. Donc, une obligation,
vous avez dit contrairement aux actions, petit coup bas. Vous êtes d'accord, non?
Ouais.
Allez, Valentine, allez.
Je suis pas d'accord, elle dit contrairement aux actions. C'est factuel, ça.
OK. Donc, l'avantage d'une obligation, c'est qu'on connaît le revenu, qu'on obtient grâce au coupon. Et à échéance, on est remboursé du nominal, du montant investi. Après, sur les obligations, comment on investit...
Sur les taux d'intérêt.
Comment
sur...
on investit en tant que particulier.
Voilà.
L'idée, c'est qu'on ne peut pas acheter une obligation en tant que particulier, c'est compliqué.
Ah, donc, déjà, c'est mauvais, ça.
Bah ouais.
Non, mais il y a des fonds.
Non, mais moi, non, je commence
le
pas...
Le juge est censé être impartial aussi.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Oui. Donc, on achète via des fonds ou via des indices. Après, sur les obligations, l'environnement et l'univers est très, très, très grand. Et ça dépend, on se positionne en fonction du couple risque-rendement que l'investisseur désire et en fonction de son horizon d'investissement. Donc, l'univers d'investissement sur l'obligataire est très large. On va des fonds réglementés, le livret A. Après, si on est un investisseur, on ne veut pas prendre trop de risques, on veut avoir un rendement avec un beaucoup plus garanti, on va sur de la dette d'État. Et on peut, si on a un appétit pour le risque plus fort et qu'on voit un rendement plus élevé, on va sur la dette d'entreprise, bien notée, moins bien notée. Donc voilà, on est sur un univers d'investissement qui est très large.
Est-ce que c'est clair pour vous? Pas de questions? Est-ce que vous pouvez nous envoyer les cloches parce que c'est parti maintenant pour la partie numéro 2. Honneur à Valentine. Valentine, pourquoi il faut investir en placement de taux d'intérêt et pourquoi ce que propose Louis de Montalembert est nul?
Alors, c'est très simple.
Elle ne réagit pas. J'ai dit pourquoi propose Louis de Montalembert est nul. Elle a fait comme ouais, si normal. C'était normal.
Il n'y a pas de sujet.
Je pensais que vous alliez dire, non, c'est pas
je
nul.
Qu'on était amis.
Quand même. Ah, ouais.
Je pensais qu'on était amis.
On était.
Non, mais j'ai dit que tous les coups étaient permis.
Ah, d'accord.
Il n'y a pas de sujet. 2024, il faut bien comprendre, c'est l'année de l'obligataire. Exactement. 2024, c'est l'année de l'obligataire. Les rendements que vous avez aujourd'hui sur les marchés, il est peu probable que vous les retrouviez dans un an. Pourquoi ? Parce qu'on est sur une inflation qui baisse. François Villeroy de Galhau l'a dit, la victoire sur l'inflation est proche.
Si François Villeroy de Galhau l'a dit, c'est que c'est vrai, non Jean-Marc ?
Non,
c'est chez vous. François Villeroy de Galhau.
Il suffit.
Elle fait preuve d'audace, parce qu'elle n'a pas compris que ça suffit à vous agacer. Non, ça.
Bien sûr. Mais après,
elle chauffe l'arbitre, c'est très mauvais.
C'est très mauvais.
Et si elle cite Christine Lagarde, elle sort.
Exactement. Étape suivante.
Ça prouve qu'elle a le sens du combat.
Oui, exactement.
Et si on regarde les chiffres d'inflation, 2023... Au début de l'année, on était autour, en France, en regardant simplement la France, on était à 7. Aujourd'hui, on est à 2,4. Donc, on voit que l'inflation a fortement baissé. Et donc, aujourd'hui, si on voit la BCE est très confiante dans le fait qu'on va baisser
c'est
les taux.
C'est pas bon signe.
Et Christine Lagarde l'a
dit. Non ! Je vous avais prévenu !
Mais si Christine Lagarde l'a dit qu'aujourd'hui...
Appelez la sécurité !
Si on sauve mauvaise surprise sur l'inflation, la BCE va baisser ses taux en juin. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des taux élevés parce qu'on était dans un environnement où, l'année dernière, il y avait beaucoup d'inflation et il fallait ramener cette inflation à 2%. Mais aujourd'hui, on est en bonne voie pour réduire cette inflation à 2%. Et là, on va démarrer un cycle de baisse de taux de la BCE. Donc, ce qui est important de dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a du rendement et il faut se positionner sur le marché obligataire.
Elle a cité Villeroy de Galhau. Elle a cité Christine Lagarde, Louis de Montalembert.
Je ne ferai pas les mêmes erreurs.
C'est lâche. C'est lâche.
Il ne s'agit pas de faire de... à l'arbitre. Il faut émettre des arguments valables.
Louis de Montalembert. Franchement, ce qu'elle dit, malgré le fait qu'elle ait cité Christine Lagarde, est quand même pas totalement absurde. Elle dit l'inflation va baisser.
Ah, moi, je pense que ça l'est.
Les rendements sont intéressants, les taux vont baisser. Donc, c'est l'année... des produits de taux d'intérêt. Louis de Montalembert.
Oui, alors, moi, j'ai pas fait le travail statistique qu'ont fait nos camarades avant pour démontrer que déjà... Très beau travail. En termes de rendement, il n'y a pas photo. Les actions ont des rendements bien supérieurs historiquement par rapport aux obligations. Donc déjà, on est du côté des actions sur les rendements. Alors, en face, effectivement, il y a un peu de volatilité, mais si on investit à long terme, quoi qu'il arrive, les rendements sont plus favorables. Je voudrais rappeler une chose. En fait, dans le bilan d'une entreprise, il y a les obligations qui sont des prêts par des tiers et les actions qui sont une part du capital. Autrement dit, quand on détient des obligations, on est une sorte de petit banquier qui va aller chercher sa petite
rente. Vous méprisez le banquier.
Oui, tout à fait. Qui va aller chercher sa petite rente sans se soucier de savoir si l'activité est intéressante.
Vous êtes comme Gabriel Attal, vous êtes contre la rente.
Moi, c'est de la petite rente. voyez. Alors que quand on est actionnaire, on est capitaine d'industrie. Hein, on participe à une aventure.
Parce que vous avez une action LVMH, vous prenez pour Bernard Arnault.
Et les gains. Et vous êtes arbitre, vous êtes.
Non.
Vous
êtes,
et les gains sont illimités parce que si je détiens du LVMH, j'ai les mêmes gains que.
Les pertes aussi.
Et les pertes aussi, mais j'ai les mêmes gains que Monsieur Bernard Arnault en l'espèce. Ça, vous l'oubliez de le dire. Je ne me prends pas pour Bernard Arnault, mais j'ai les mêmes gains. Donc, en fait, ce sont deux actifs extrêmement différents. L'un, on est le petit banquier d'une entreprise en espérant tous les soirs qu'elle ne fasse pas faillite. Alors
non,
que.
Non, mais là, elle a le droit. Si une entreprise fait faillite, qu'est-ce qui part en premier ? Ce sont les actions.
Et le petit banquier, lui, rentrera chez lui et il aura encore de quoi donner de l'argent pour Noël à ses enfants.
Et c'est vrai, quand on regarde Crédit Suisse, on se dit que c'était chouette de détenir des obligations.
Crédit Suisse, c'est déjà en Suisse.
C'est en Suisse. Et puis Orpea, les détenteurs de dettes d'Orpea, ils ont perdu quasiment tout leur argent. Non, je trouve qu'en fait, il y a un risque qui est presque...
C'est vrai qu'Orpea, les mecs en action, ils étaient bien. Franchement, moins 99%.
Mais finalement, oui, mais vous avez investi en obligation. Si vous avez investi en obligation, c'est pour la sûreté de la chose. Je trouve qu'en fait, la sûreté est survalorisée. Elle n'est pas si tellement importante par rapport aux actions. Quand une boîte fait faillite, et il n'y a pas toujours des actifs à liquider pour payer d'abord, c'est vrai, les détenteurs d'obligations. D'ailleurs, c'est d'abord l'État, puis les détenteurs de créances, puis les détenteurs d'obligations, puis enfin les actions. Donc, en fait, je trouve que la sûreté proposée est médiocre par rapport
médiocre.
À... Elle est médiocre.
Wow, je
la
crie,
deuxième
hein.
chose, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est parler de...
Ah, parce que ça, c'était une chose.
Oui, c'est l'illusion nominale, d'accord ? Je vous vois sautiller dès qu'il y a 4% d'intérêt.
Ouais, 4% d'intérêt. Moi, franchement, 5% d'intérêt, ça me fait sautiller.
Oui, je sais. Alors, 4%, ça vous fait gigoter sur votre fauteuil.
Gigoter.
D'accord ? 4%,
comme ça.
La première chose, c'est que si on normalise l'inflation à 2%, ça veut dire que c'est 2% réellement de rendement réel.
On peut faire la même chose sur les actions.
J'entends, c'est pas la peine de me faire des signes. C'est-à-dire le 2, j'entends.
2%.
Ouais, je suis pas malentendant.
Si en plus, vous rajoutez la fiscalité... D'accord. La fiscalité en France, si vous êtes dans un système de compte-titres, c'est 30%. Donc ça veut dire qu'en réalité, c'est un rendement net de 0,8%.
C'est une pluie de coups qui tombe sur Valentine Hénouze et son ami Christine Lagarde.
J'oublie la fiscalité. Ça veut dire qu'avec 2%, pour gagner 10 000 euros par an, il faut un patrimoine de 500 000 euros. C'est délirant. C'est mal placer son argent. C'est des trucs de gens ultra riches qui mettent de l'obligataire parce qu'ils sont tellement riches que.
Bah vous disiez que c'est un truc de petit banquier, je comprends plus. C'est
alors on est
ultra des, riche ou petit banquier gens, il faut choisir.
Les gens ultra riches peuvent se permettre d'être des petits banquiers. Voilà. Et ben les gens avant. C'est aussi simple que ça. Alors que les gens qui ont besoin de gagner de l'argent, de faire travailler leur épargne, veulent être des capitaines d'industrie aux côtés de Bernard Arnault ou d'autres. Pour participer aux gains sur le capital.
Non, mais là, vous êtes envolé, là, franchement. Alors, pas parce que vous avez une action, vous êtes à côté de Bernard Arnault, il ne vous voit même pas.
En termes de gains.
Il ne sait pas que vous existez, vous, Louis de Montalembert.
En termes de gains, Marc, c'est vrai, en termes de gains.
Un genou à terre, Valentine, je vous compte.
Non.
Un,
non.
Deux, trois, c'est bon, vous pouvez remonter sur le ring ou pas ?
Exactement.
C'est parti.
Je pense qu'il est important de comprendre que oui, les rendements, et on va être d'accord, sur les actions sont supérieurs aux rendements qu'on a sur les entreprises. Mais il faut aussi voir ça en fonction d'un risque. Et le risque sur les obligations est inférieur au risque qu'on a sur les actions. Donc ça, c'est, il faut vraiment avoir toujours en tête ce
coût. Oui, mais il vous dit, regardez, depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans...
Non,
c'est important. Il vous dit, les rendements sont écrasants. Si j'ai mis 100 en action, mais je pulvérise votre performance en obligation. Qu'est-ce que vous répondez ?
Ce que je veux dire là, c'est que ça ne sert à rien de regarder l'historique des 10 dernières années sur l'obligataire.
Ça ne sert à rien.
Non, parce qu'on était dans un environnement de taux bas et de taux négatifs.
Bah oui, c'est
et
ce
là,
que je lui dis
ce qu'il faut
Louis.
Vraiment garder à l'esprit, c'est que là, il faut vraiment profiter aujourd'hui du changement de cet environnement. On n'est plus du tout dans un environnement où avant, on avait 40% du monde obligataire qui traitait en taux négatifs. Non. Aujourd'hui, si on regarde les rendements sur les entreprises, la dette d'entreprise bien notée, on tourne autour de 4%.
En réel, ça fait combien ?
Et alors, on tourne autour de 4%. Et si on regarde...
En réel, ça fait combien ?
Si on regarde, après, on soustrait l'inflation. Et après, si on
ça
regarde...
Ça fait combien ?
On soustrait 2% d'inflation. Et donc après, si on regarde sur la note, si on ne veut pas prendre un peu plus de risques, sur les notes d'entreprises moins bien notées, on tourne autour de 6%. On parle du défaut, parce que le défaut, c'est en général une obsession des gens. Dès qu'on parle de la dette d'entreprise...
C'est quoi le défaut ?
Quand une entreprise n'arrive pas à rembourser ses échéances. Bon, dans ce cas-là, quand en général on est dans cette configuration-là, une action, ça ne vaut plus grand-chose. Donc nous, après, en tant que porteurs obligataires...
L'obligation non plus. Hein.
Ça il vous, non, a, il vous a quand même comparé à un petit banquier.
Non, mais je n'ai pas la tête d'un petit banquier.
c'est pas faux.
Et après, et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que sur les entreprises bien notées, il n'y a très, très, très peu de défauts. On tourne autour de zéro et quelques en défaut. Il n'y a pas beaucoup de défauts sur l'investment grade. C'est rarissime.
Mais autant détenir des actions, du coup.
Autant détenir des actions, du coup.
Autant, oui, autant participer aux résultats de l'entreprise.
Vous ne l'avez pas vu venir.
Pourquoi prendre un petit coupon, Valentine ?
L'objectif, ce n'est pas forcément participer aux résultats de l'entreprise.
Je veux du bien pour votre patrimoine, Valentine.
C'est de gagner de l'argent. Gagner de l'argent en, prenant, en ayant un couple risque-rendement optimum. Donc là, le
donc là, elle a un point. C'est très important ce que dit Valentine. Ouais. Et là, je vous sens... Je ne vais pas vous compter parce que je ne vous sens pas KO. Mais quand même... Non, je ne vais pas vous compter, mais je pourrais vous compter. Non, mais parce qu'elle dit quand même que votre argument qui consiste à dire « oui, ça a le mieux performé », vous n'avez pas tenu compte du risque.
Alors, le couple rendement-risque, absolument, c'est quand on travaille dans la finance, on vise à optimiser le couple rendement-risque et il est indéniable que les actions ont un profil de risque plus élevé que les obligations.
Ah.
Mais le couple rendement-risque
très important, ce que vous dites.
Reste beaucoup plus favorable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a dans les actions cotées peut-être un peu l'erreur de penser que la volatilité d'un titre, c'est-à-dire les mouvements haussiers et baissiers répétitifs, constitue le risque de l'investissement dans l'action. Or, c'est pas ça véritablement le risque d'investir dans une entreprise. La volatilité, c'est le risque de rentrer haut et de sortir contraint à un moment où le titre, parce qu'il y a une anxiété de marché, est bas. Il faut rappeler que les titres boursiers bougent suivant trois vecteurs. L'un, c'est la liquidité apportée par les banques centrales. Le deuxième, c'est la psychologie collective des marchés. Le troisième, c'est la microéconomie, c'est-à-dire les fondamentaux des entreprises. Mais plus vous investissez à long terme, plus vous misez sur les fondamentaux, puisque une droite de régression sur un titre
boursier...
D'un cours boursier reproduit peu ou prou le développement opérationnel de l'entreprise. D'accord ? Donc ça veut dire que je pense qu'il
peu
faut
ou prou,
investir.
C'est limite, hein, mais droite de régression.
Je pense qu'il faut investir en actions l'argent pour lequel on n'a pas de terme de désinvestissement. À partir du moment où on a terme.
D'accord, mais votre coût de garder des actions à vie.
Mais ça s'appelle
exactement. Si on avait aujourd'hui du Alcatel ou des compagnies ferroviaires du 18e siècle.
Oui, mais ça, on va toujours trouver une exception.
Le 18e siècle.
Non, mais Marc, si vous regardez les indices de manière générale, si vous mettiez il y a 20 ans dans le Nasdaq, vous mettiez il y a 20 ans même dans le CAC 40, de manière générale, vous gagnez de l'argent.
Alors, donc l'horizon, c'est 20
sur 2000.
L'horizon, c'est 20 ans.
Non, l'horizon, c'est dès qu'on a... c'est un horizon long, quoi qu'il arrive. Mais je vais finir sur le risque.
Non, elle est dans son coin, elle n'a pas le droit de parler. Allez-y.
Non, je vais finir sur le risque.
Horizon long, quoi qu'il arrive, nous, sur l'univers obligataire, on vous propose des choses beaucoup plus intéressantes. Parce que si aujourd'hui, vous avez besoin de placer votre argent pour 3 mois et vous avez besoin de retirer vos liquidités
dans
3 mois...
Ah, mais là, je suis d'accord.
Eh bien, aujourd'hui,
vous avez... Ah, mais sur 3 mois, je ne mettrai pas dans les actions, évidemment.
Voilà, déjà, vous avez sur le marché monétaire
et
aujourd'hui...
sur un an, sur 2 ans.
Vous avez... Alors, sur le monétaire aujourd'hui, vous avez du 4%.
4%.
Vous êtes payé pour attendre.
Je frétille.
Et je dirais même, bien payé pour attendre.
Je gigote, 4%, je gigote. Bah oui.
Zéro, un risque,
vous
un risque
frétillez
très,
bien
très,
avec
la possibilité d'avoir accès à votre liquidité en permanence. 4%, c'est génial.
Ah, mais si on
a 4%, c'est génial.
Oh là là, c'est fort. Non, mais moi, je vis dans un autre monde.
Non, Louis de Montalembert.
Je vis dans un autre monde.
On n'est pas à Versailles, on n'est pas dans la cour de Marie-Antoinette. Revenez avec nous.
Si c'est pour gagner quelques piécettes pour aller acheter du pain parce qu'on a placé un petit peu son argent quelques mois.
Mais nous, on est le peuple, nous.
Oui, mais vous avez
besoin de
brioches. Moi, je vous propose des brioches, du pain.
Des brioches ou de l'eau, quoi.
Non, et du lait. Et du lait. Non, je voudrais revenir sur le
risque. Sur la droite de régression.
Non, effectivement, je pense qu'il faut investir à long terme. On investit au capital des entreprises, l'argent dont on n'a pas besoin. Ça, là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Mais si c'est pour constituer un patrimoine que l'on met de l'obligataire, on se met le doigt dans l'œil. D'accord ? Parce qu'il n'y a aucune chance qu'un intérêt composé de 2% puisse vous rendre riche.
C'est juste impossible. Valentine, il vient de vous mettre le doigt dans l'œil.
Non. Je veux dire, Bernard Arnault n'est pas devenu riche en achetant des bons du trésor.
Non, mais arrêtez,
c'est vous qui l'avez mis sur la table.
Il vous met le doigt dans l'œil.
Non, déjà, tout le monde.
Elle se met le doigt dans l'œil.
Je dirais aujourd'hui, ce qui est très intéressant sur l'obligataire, c'est que vous pouvez avoir des taux qui restent très corrects. Hein, on tourne autour 4% pour l'investment grade, 4% pour les entreprises bien notées et 6% pour les entreprises du haut rendement. Et qu'aujourd'hui, avec les fonds datés, on peut avoir ce rendement.
C'est quoi les fonds datés ?
Les fonds datés, ça veut dire que c'est des fonds où il y a des obligations d'entreprise sur une période de 4 à 5 ans. Ou 5 ans, on est autour de 5 ans. Et donc ces fonds, aujourd'hui, je les trouve extrêmement intéressants parce que vous pouvez avoir un rendement. C'est bien, peut-être on peut avoir 15-20%.
Peut-être.
Mais peut-être. Sauf que moi, mon risque attaché à mes 5%, il est très faible. Donc je pense que tout le monde serait quand même assez content de garantir un rendement de 5% sur les 4-5 prochaines années avec un risque faible sur cette performance. C'est quand même vraiment pas trop mal.
Elle vient de décrocher un direct qui fait mal. Louis Montalembert, c'est bientôt la fin. Je vais demander l'avis des deux autres invités. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ce qu'elle vient... Elle l'a frappé fort.
Non, pas du tout.
Elle a frappé très fort.
Même, je vais prendre 5%.
Elle a sorti le doigt de son œil, elle a frappé très fort.
Non, avec son doigt. Non, moi, tout ce que je veux dire, c'est que, effectivement, tout à l'heure, on jouait sur 4%. On peut jouer sur 5%. Néanmoins, si on enlève l'inflation, on dit 2%, elle n'y est pas encore. Mais disons qu'on enlève 2%, ça reste 3%. Un intérêt composé de 3% sur 5 ans, c'est minuscule. Vous n'allez pas vous enrichir. Faut-il, une fois de plus, être très riche pour pouvoir se permettre de rendre que 3% net sur son patrimoine ? C'est tout ce que je dis. Ce n'est pas de l'investissement, c'est de la petite rente.
Fin du combat. On peut les applaudir, ils ont été très bons. Alors, je me tourne vers Jean-Marc Daniel.
Ouais.
Jean-Marc, c'est un sujet que vous connaissez parfaitement puisque vous êtes très riche vous avez placé de l'argent à la fois en obligations et en actions et que Bernard Arnault vous connaît.
Ah bon ?
Oui, il m'a parlé de vous.
Ah bon ? Ah, je suis flatté, je partirai content de cette émission. Mais si vous écoutez les autres émissions, j'arrête pas de dire qu'il n'y a pas d'inflation. Or, ce qu'on vient de dire, c'est que l'obligataire est à des niveaux de taux d'intérêt élevés du fait de l'inflation. Mais il n'y a pas d'inflation. Donc on a intérêt à avoir de l'obligataire. On va même vers de la déflation. Et dans une phase de déflation, les entreprises qui génèrent normalement la rémunération des actions et la valeur des actions vont être.
Alors attendez, juste.
Alors que sur l'obligataire,
vous,
ça va être...
vous jouez beaucoup avec cette expression, il n'y a pas d'inflation, on vous écoute depuis un moment. Moi, oui. Je vous ai écouté, j'ai perdu de l'argent parce que les taux d'intérêt américains sont montés et qu'il y a de l'inflation, on est à 3,7%. Ça reste de l'inflation et les salaires montent. Et... Non, mais ne me dites pas techniquement la définition non, de 1712. De...
Non, mais indépendamment
c'est bon, je parle aujourd'hui. Là,
je ne vais pas essayer de regarder la droite de régression.
Ne parlez pas en latin, parlez-moi en français.
Et voilà.
Pas de droite de régression, de gauche de régression, ça peut être d'accord.
Voilà. Bon, au riz, ça crache à baisse. Mais enfin,
non, pas de gros mots.
Je reviens à l'essentiel. Je regarde quand même que dans les... Je maintiens dans les pays du G20 maintenant le vrai problème quand on regarde les
négociations. Les États-Unis, par exemple.
Oui,
ils ont de l'inflation.
Mais pas du tout. Quand vous regardez l'inflation sous-jacente, est encore en train de baisser.
Donc, vous dites quoi ? Vous dites, Louis, les actions. Non, je vous aimez les actions.
Oui, j'aime les actions, mais après.
Vous aimez l'action, vous d'ailleurs.
Oui, merci. Mais les actions, c'est effectivement après un risque, et donc il faut avoir le sens du risque. Et effectivement, il y a des gens qui réussissent dans le risque, et il y a des gens qui se retrouvent dans une situation extrêmement alarmiquée. Mais le véritable enjeu, c'est le rentier. Le rentier, donc Keynes disait, on va faire son euthanasie. Mais pour faire l'euthanasie du rentier, pour le détruire, il faut de l'inflation. Or, il n'y a pas d'inflation.
Donc, sans inflation aujourd'hui, vous dites obligation.
Des
vous
obligations,
dites, c'est la période dorée des obligations.
C'est un point d'entrée historique.
Voilà, elle a tout à fait raison. On est avec des taux d'intérêt qui sont effectivement pas très élevés.
Ah mais non,
pas,
il a le droit.
Moi, j'ai pas le droit de donner mon avis sur l'or et le bitcoin.
Si, par rapport à la déflation.
Qui a gagné, vous avez dit les deux. Vous avez été bidon, vous m'avez dit l'or et le bitcoin. Elle a raison. Donc, je partage son point de vue.
Cyril, maintenant, va donner son avis et je vais crier encore plus fort.
Eh bien, écoutez, moi, je trouve que Louis a parfaitement résumé la problématique. La problématique, c'est un horizon d'investissement. Si l'horizon d'investissement est important, les actions sont le bon choix. Et moi, j'ai un horizon d'investissement long, donc je pense que les actions sont le bon choix. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est lié au timing. Il a été dit qu'on a une fenêtre de tir intéressante sur les obligations. À partir du moment où il y a un sujet et on doit se poser une question sur une fenêtre de tir, c'est qu'il y a une problématique. Et enfin, la troisième raison pour laquelle je suis aussi Louis, c'est que je suis entrepreneur et que je valide complètement l'approche de se dire on est lié à une société et à la croissance de celle-ci.
Non aux petits banquiers, on est d'accord.
Voilà. Valentine, est-ce que vous voulez juste répondre à cette idée-là de long terme et de votre erreur, peut-être, hein, je ne dis pas, d'avoir parlé de fenêtre d'investissement?
Non, aujourd'hui, il y a une vraie fenêtre d'investissement sur les
comme taux. Jean-Marc, qui pense
c'est,
la même chose que
c'est
vous.
C'est indéniable, on sort d'une période où il y a énormément d'inflation. On sort déjà de 10 ans où on a eu des taux négatifs. Donc oui, là, on pouvait s'interroger sur l'intérêt de l'obligataire quand on a des taux négatifs. Après, on est rentré dans une période avec de l'inflation et des banques centrales qui ont augmenté énormément les taux pour pouvoir combattre cette inflation. Et aujourd'hui, l'inflation est en train de rebaisser. Et donc, les banques centrales vont baisser leurs taux. Donc aujourd'hui, c'est véritablement un point d'entrée. Je vais conclure. Les rendements que vous avez aujourd'hui, vous ne les aurez pas forcément dans un an. Donc,
est-ce qu'il y a des questions dans le public? Je peux prendre une question. Monsieur. Très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps.
En ce qui concerne le marché obligataire, est-ce que vous ne pensez pas que la fenêtre de tir était en novembre 2023? Et là, nous sommes au cinquième mois et les obligations peinent à avoir du résultat.
Réponse.
Non. On est toujours pour moi dans une séquence où il est intéressant d'être sur l'obligataire. Et parce que de toute façon, la BCE n'a même pas encore commencé à baisser ses taux.
Est-ce qu'on a une deuxième question? Je prends une deuxième question. Monsieur devant, première. Oui,
juste une remarque pour dire.
Pas de remarque, une question.
Alors.
Allez-y.
Donc, quand.
C'est pas grave, on vous entend.
C'est les deux options correspondent à des situations différentes, c'est ce que je retiens de l'échange. Et donc, ma question, ce sera pour qui voter, puisque c'est pas le.
C'est très clair. Alors, justement, bonne transition. Qui vote pour les actions avec Louis de Montalembert? Alors, attends, il va falloir compter. Non, on ne peut pas voter les deux. 1, 2, 3. 4, 5, 6.
Il n'y a pas photo.
Pour les obligations. And the winner is Louis de Montalembert. Est-ce qu'on peut avoir la musique? C'est un champion. Je vous remercie à tous pour cette émission exceptionnelle, ce combat des chefs. On a donc deux gagnants, Louis de Montalembert. Vous pourrez revenir pour les Cross Battles. Jean-Marc Daniel aussi. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous dire qu'elle sera exceptionnelle et qu'on pourra continuer à nous regarder, nous écouter en replay, en podcast, sur la plateforme BFM et sur toutes les plateformes. On bat des records mois après mois.